France Inter, le 6-9 de l'été, Éric Delvaux.
Aujourd'hui c'est lundi, nous sommes le 20 août, bonjour à tous, le journal avec vous, Maxime Debs, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, cet incendie dans un immeuble d'Aubervilliers, bilan 7 blessés graves dont 5 enfants et le pronostic vital d'une femme est engagé. Les autres titres, Maxime.
Gênes qui se relève petit à petit, 6 jours après l'impensable, ce viaduc qui s'est effondré faisant 43 morts selon un dernier bilan revu à la hausse. Au-delà de la catastrophe humaine, d'autres s'inquiètent désormais des conséquences économiques pour la ville. En France, les compteurs de la Discord, les nouveaux compteurs Linky continuent de faire parler. Des communes n'en veulent pas, font tout pour faire barrage. La justice se prononce aujourd'hui. Dans ce journal également, la grosse fatigue d'un grand patron au bord du burn-out. Le milliardaire Elon Musk a déjà été mieux et fait part de ses états d'âme. Enfin, Obama, oui, Obama a peut-être investi votre jardin. C'est très sérieux et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
Un mot sur les invités de cette matinale à 7h50. Question sur les mers et les océans dont les températures ne cessent de monter. On va en parler ce matin avec Claire Nouvian. Elle est à la tête de l'association Bloom. Et puis à 8h20, on va parler d'Europe, la Grèce donc, qui n'est plus sous tutelle à partir d'aujourd'hui. Les élections européennes en ligne de mire. Rendez-vous à 8h20 avec Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. Vos questions à Pierre Moscovici, vous nous appelez dès maintenant. C'est au 01 45 24 7000.
Il était aux alentours de 19h lorsque les flammes ont commencé à se propager à Aubervilliers, au nord de Paris. Un incendie dans un immeuble d'habitation hier soir a fait 7 blessés graves, dont 5 enfants. Certains des occupants de l'immeuble sont passés par les fenêtres pour échapper aux flammes. Incendie criminel, simple accident. Aucune explication pour l'instant à ce feu. Une enquête a été ouverte. En attendant, Benjamin Illy, ce matin, c'est un spectacle de désolation qui s'offre aux passants.
À première vue, les dégâts sont limités, mais si vous rentrez dans la cour intérieure de ce petit immeuble de 2 étages, il est facile d'observer les fenêtres noircies. L'épicerie au rez-de-chaussée a été épargnée dans l'ensemble, un peu de poussière au sol et surtout l'inquiétude d'un employé qui a passé la nuit sur le trottoir, couverture sur les épaules pour surveiller les lieux. La colère froide aussi, celle d'une habitante du quartier qui veut rester anonyme et qui était là hier soir.
J'ai vu le feu, ouais. De l'autre côté, par la fenêtre. En sortant de chez moi, oui, j'ai vu ce qui s'est passé. La mère qui était par terre, ses enfants qui sont à l'intérieur, une fille qui était brûlée au niveau du visage. En fait, c'est moi qui ai appelé à 19h les pompiers. Ils sont arrivés 20 minutes après.
Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
C'était des jeunes qui ont secouru, qui ont essayé de rentrer et de récupérer des gens qui étaient à l'intérieur.
Cet immeuble était vétuste, vous le connaissiez peut-être?
Oui. Oui. De toute façon, toute la rue est vétuste. Et il y a des marchands de sommeil. On sait très bien que les gens dedans habitent au moins. Il y a au moins une dizaine de personnes dans un appartement assez petit.
Qu'est-ce que vous demandez,
hein? Que le maire, la maire du moins, fasse quelque chose. Parce que là, ça fait un moment que ça dure et on en a marre.
La maire d'Aubervilliers, justement, Meryem Derkaoui, s'est exprimée sur le réseau social Twitter. Elle parle d'une habitation privée dont les conditions d'occupation restent à éclaircir.
Et le mois dernier, déjà, un incendie dans un HLM était survenu dans cette même ville de Seine-Saint-Denis. Une mère et ses 3 enfants y ont perdu la vie. Dans le Nord, un jeune homme de 18 ans est lui toujours en garde à vue ce matin, mis à la porte d'une discothèque à Cambrai dans la nuit de samedi à dimanche. Il a visiblement décidé de se faire justice lui-même. En revenant une heure plus tard avec sa voiture, il a foncé sur le videur et percuté 6 autres personnes qui se trouvaient sur sa route. 2 sont grièvement blessés, dont le vigile aujourd'hui dans le coma.
La Grèce debout, la Grèce autonome.
Après des années d'austérité, le pays sort officiellement aujourd'hui du programme d'aide internationale et devra désormais se débrouiller tout seul sans ses créanciers qui lui ont prêté en 8 ans près de 300 milliards d'euros, 8 années qui laisseront des traces. Un quart du PIB s'est depuis évaporé, on en parlera ce matin à 8h20, Eric, avec votre invité, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, Pierre Moscovici. De la Grèce à l'Italie, où là aussi le pays risque de mettre des mois, si ce n'est des années, à se relever de cette catastrophe. Ce viaduc à Gênes qui s'est effondré la semaine dernière. Ce week-end, le nombre de morts a encore grimpé. 43 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie. Et après le temps du recueillement de ces derniers jours, une autre question se pose, économique celle-ci. Gênes est une ville de transit, un port stratégique, le premier port d'Italie pour le transport de containers. Par conséquent, les dockers comme Luigi commencent à s'inquiéter, ils craignent un ralentissement de l'activité.
C'est une situation qui comporte une grande inconnue. Parce que sur le pont Morandi, qui vient de s'écrouler, circulaient plus de 5000 camions qui transportaient les marchandises qui arrivaient et partaient du port de Gênes tous les jours, vers les zones où les marchandises arrivent. Donc c'est un impact qui peut être très important, dans un sens négatif pour le port. Le vrai problème que l'on va devoir affronter, c'est le fait que Gênes est une ville coincée entre la mer et les Apennins, et que le pont Morandi n'était déjà pas à même de supporter un trafic routier extrêmement dense. Si l'on ajoute à cela le fait qu'aujourd'hui le pont Morandi n'est plus là et que donc les marchandises vont devoir transiter à l'intérieur de la ville, eh bien le risque, dans l'immédiat, plus que pour le port de Gênes, c'est la faillite de la ville.
L'immédiatement pour le port de Genova, le risque est le collasso de la città.
Voilà Luigi Cianci au micro de notre envoyé spécial sur place, Sandrine et toi, Andeg. L'émotion ce matin à la frontière entre les deux Corées, des familles séparées, certaines depuis 68 ans, date du début de la guerre entre les deux pays, vont se retrouver aujourd'hui. Un convoi de 14 autocars a quitté à l'aube ce matin la Corée du Sud, direction la frontière nord-coréenne, où vont pouvoir s'enlacer des frères, des sœurs, des oncles arrachés l'un à l'autre par les circonstances de l'histoire. Des retrouvailles rendues possibles par le rapprochement soudain des deux pays depuis le début de l'année. À l'étranger encore, la terre qui n'en finit pas de trembler en Indonésie. 15 jours après un premier séisme, l'île touristique de Lombok a été secouée une nouvelle fois ces dernières heures. Des répliques au premier tremblement de terre qui avait fait près de 500 morts. Les autorités indonésiennes font état de 5 victimes supplémentaires après ce nouveau séisme.
En France, quand les mairies, par dizaines, résistent à celui qu'elle appelle l'envahisseur Linky.
Ouais, on le sait, le nouveau compteur dit intelligent, censé vous faire faire des économies, ne ravit pas tout le monde. À ce jour, en France, près de 4000 personnes ont déjà lancé des procédures devant les tribunaux à titre individuel afin de refuser l'installation de ce matériel chez elles. Mais voilà, à côté de ça, il y a aussi 300 communes qui font barrage. Certaines ont même adopté des délibérations interdisant le déploiement de ces compteurs sur leur territoire. C'est le cas de Berlétang. Le tribunal administratif de Marseille doit se positionner aujourd'hui. L'avocate et ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, défend la mairie dans cette affaire.
Ce que dit, pour motiver sa décision, la commune de Berlétang, c'est exactement ce que dit la Cour des comptes. C'est-à-dire que ces compteurs ne sont pas des compteurs intelligents au sens du droit communautaire puisqu'ils ne permettent pas aux gens de moduler leur consommation et donc de réduire leurs dépenses. Au contraire, on sait tous maintenant que la pose des compteurs Linky ne permet pas de réduire sa dépense et en règle générale permet de l'augmenter. Sous prétexte qu'on dépense plus que ce qu'on imaginait, enfin je n'en sais rien. Le fait est que beaucoup de nos concitoyens se plaignent, après l'adoption d'un compteur Linky, d'avoir vu leur facture augmenter très sensiblement. Et puis derrière, vous avez tous les problèmes liés à l'électrosensibilité pour les personnes qui sont électrosensibles en raison des ondes, même si elles sont modestes, qui sont émises par les compteurs. Il n'est pas dans l'intérêt de l'usager, il est dans l'intérêt exclusif d'EDF. C'est très légitime que EDF défende son intérêt, mais ce n'est pas aux usagers de le supporter.
L'avocate et ancienne ministre Corinne Lepage au téléphone de Manuel Ruffez. L'audience en référé se tient à 14h à Marseille cet après-midi. Où en est-on de l'enquête sur le scandale du Dieselgate? Le groupe Volkswagen est accusé d'avoir sciemment utilisé un logiciel truqueur pour passer sans encombre les tests anti-pollution. Eh bien, cette enquête patine pour la simple et bonne raison, selon le journal Le Parisien ce matin, que la justice allemande mettrait des bâtons dans les roues des juges d'instruction français en charge du dossier ces derniers ont écrit aux parties civiles pour leur témoigner de ce manque de coopération. Lui, allait très tiré, épuisé apparemment. Elon Musk est-il proche du burn-out? Le fantasque patron, fondateur de Tesla, SpaceX ou encore SolarCity pourrait lever le pied à 47 ans. Sa marque de voiture Tesla est en pleine tourmente et dans un entretien accordé au New York Times, l'entrepreneur, visiblement à bout, dit qu'il vient de passer une année épouvantable, un entretien qu'a décortiqué notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
Le New York Times raconte que pendant cet entretien d'un peu plus d'une heure réalisé dans sa maison de Los Angeles, Elon Musk est passé en permanence du rire aux larmes, cachant difficilement ses émotions. Et le milliardaire le reconnaît, l'année écoulée a été la plus douloureuse de sa carrière. Épouvantable, dit-il. Musk décrit sa vie tout entière consacrée au travail, parfois des semaines de 120 heures, son 47e anniversaire passé seul au bureau, les somnifères pour dormir, Tesla et SpaceX lui prennent tout son temps et les difficultés se sont encore accentuées la semaine passée après que Musk a annoncé dans un tweet que Tesla allait peut-être se retirer de la bourse. 1h20 après ce message, l'action du constructeur chute de 7% et la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, lance immédiatement une enquête. Au New York Times, le milliardaire épuisé dit ne pas regretter ce message sur Twitter qui a plongé son entreprise dans la tourmente. Mais chez Tesla, les membres du conseil d'administration pensent qu'Elon Musk doit soit prendre un peu de repos, soit trouver rapidement un numéro 2 pour le décharger. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Un promu avec du mordant en clôture de la deuxième journée de Ligue 1 de football. Nîmes s'est offert le scalp de l'OM hier soir en l'emportant 3-1. Dans les autres matchs disputés hier, Strasbourg a fait match nul avec Saint-Etienne 1-1 et Toulouse a battu Bordeaux 2-1. Des pelouses au jardin, je sais que vous l'aimez votre jardin Eric.
Oui.
Et si je vous disais que dans ce jardin vous avez un Obama,
faudra me le démontrer ça.
Je vois que vous me regardez avec grands yeux, mais non, on ne parle pas ici de l'ancien président américain mais d'un vert invasif qui a tout pour vous pourrir la vie et qui pourrait bien à terme menacer la biodiversité. Il est pris très au sérieux cet Obama, une sorte de limace visqueuse, gluante, de couleur marron-gris, originaire du Brésil. Elle a débarqué en Europe, cette limace, dans les années 2000, grâce au transport de pots de fleurs. Et depuis, le nuisible se répand partout, comme en Dordogne. Charles de Quillac de France Bleu Périgord est parti le chasser pour nous.
Un petit jardin entouré d'une palissade dans un lotissement en banlieue de Bergerac. Parmi les fourmis et les limaces, un intrus.
Ah non, mais voilà un autre. Vous voyez là, au moment où je vous parle, on en trouve un autre qui s'est caché là.
Un vert plat, marron-gris, l'aspect visqueux d'une dizaine de centimètres. C'est le cinquième qu'Arnaud trouve dans son jardin.
Donc ça, c'est le Obama Nungara. Ça fait quand même une belle taille. Ça peut être surprenant aussi pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler au jardin et puis qui trouve ça sous ses pierres.
En 2013, Obama Nungara est signalé pour la première fois en France. Depuis, il a colonisé plus de 60 départements. Jean-Loup Justine, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, organise une veille sur la bestiole venue du Brésil.
On a des signalements de personnes qui nous disent que dans leur jardin, ils ont des dizaines et des dizaines d'Obama Nungara. Elle a tout pour réussir, elle a de la nourriture abondante et elle n'a pas d'ennemis, elle n'a pas de prédateurs en France.
Sa nourriture, eh bien ce sont nos vers de terre à nous, les fameux lombrics, éléments essentiels pour la bonne santé des sols. Problème pour l'éradiquer.
Il n'y a malheureusement aucune solution technique. La seule chose que je peux recommander, c'est ou bien de les ramasser à la main et de les détruire, ou bien simplement de les écraser.
En Dordogne, c'est sûr, il n'y a pas que dans le jardin d'Arnaud qu'il a pris ses quartiers. Charles de Quillac, France Bleu Périgord pour France Inter.
Voilà Eric, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Courez écraser les Obamas dans votre jardin, on vous aura prévenu.
Visqueux et gluant, je vous laisse écraser, hein, je m'en occupe pas. Merci Maxime Deps. Un point sur vos conditions de circulation à présent avec vous au PC Mobilité de France Inter. Laurent Borde, il y a un accident dans le sud-ouest.
Oui, un véhicule est accidenté sur l'A62, c'est entre Bordeaux et Toulouse, en direction de Toulouse, juste après la sortie 8 Valence-d'Agen, au niveau de Castel-Sarrazin, en Tarn-et-Garonne. La voie de droite est neutralisée. Et puis en région parisienne, une voie de circulation, la voie de droite plus précisément, est neutralisée sur l'A13 en direction de Paris, au niveau de Saint-Mont-la-Bretèche. C'est à cause d'un véhicule en panne.